Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie, la radio web de l'Institut de France. Nous nous retrouvons pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire consacré cette fois à l'histoire médiévale. Toute personne qui s'intéresse un tant soit peu à l'histoire médiévale sait qu'une des particularités de cette période est la pauvreté des sources que l'historien a donc à sa disposition. Est-ce pour autant ou pour si peu que la profusion de textes permet d'accéder à une vérité historique ? Eh bien, rien n'est moins sûr, comme nous allons le voir aujourd'hui à travers la légende du roi Arthur. Jugez-en par vous-même, l'engouement pour le cycle arthurien a duré plus de 8 siècles et se perpétue même jusqu'à nos jours à travers le cinéma, mais aussi à travers la télévision avec la fameuse série Kaamelott d'Alexandre Astier sur la chaîne de télévision M6. Mais il faut remonter entre le 6e et le 14e siècle pour observer une prolifération de textes sur la légende du roi breton, des textes qui constituent les fondements de notre savoir. Nous possédons en effet à ce jour 220 manuscrits consacrés au roman du cycle du Lancelot Graal, 217 autres manuscrits sur l'histoire des rois de Bretagne, 70 textes pour le Parsival et plus de 50 sur Merlin et enfin 43 exemplaires très exactement des livres arthuriens de Chrétien de Troyes. Tous ces textes, tous ces romans, tous ces manuscrits qui sont venus jusqu'à nous témoignent sans conteste de l'incroyable popularité du roi Arthur et de ses chevaliers aux temps médiévaux. On parlera même de véritables passions qui s'exprimaient non seulement à travers les copies, mais aussi dans les traditions orales. Pourtant, que sait-on réellement du roi Arthur? Tout le monde pense à la table ronde, tout le monde pense à Excalibur. Les plus renseignés, entre guillemets, iront jusqu'à évoquer l'adultère de Guenièvre ou bien la quête du Graal. Mais au fond, nous parlons du roi Arthur non seulement sans savoir qui il était vraiment, mais sans se poser la véritable question, la seule question, a-t-il vraiment existé? A priori, oui, puisque sa tombe aurait été retrouvée sous le règne de Henri II à la fin du XIIe siècle, une découverte dûment et sérieusement racontée par un certain Giraud de Barry vers 1192. Et un roi que l'on évoque, ma foi, depuis le VIe siècle ne peut qu'à fortiori exister. Eh bien, pourtant, rien n'est moins sûr. Je vous propose donc de partir à la découverte non pas d'une histoire, mais de plusieurs histoires écrites, transmises au fil des siècles par des érudits, des bardes, mais aussi des politiques. Toutes ces histoires, en revanche, forment une seule et même légende, celle du roi Arthur. Martin Aurel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'université de Poitiers, directeur des cahiers de civilisation médiévale, auteur d'un livre remarqué, remarquable, consacré à l'Empire des Plantagenets, un ouvrage réédité dans la collection de poche Tempus, la collection de poche donc des éditions Perrin. Et vous venez de publier chez le même éditeur, donc chez Perrin, une étude très importante intitulée « La légende du roi Arthur ». Alors, on se doute, Martin Aurel, qu'il y a entre les Plantagenets et ce livre, La légende du roi Arthur, un lien. Vous êtes venu à Arthur par les Plantagenets ?
Oui, tout à fait. Vous l'avez bien montré. Il y a ce moment clé, 1191, l'invention, la découverte, invention, in venire, trouvée. Mais pour nous, l'invention évoque quelque chose de fictif, d'artificiel. Cette découverte du tombeau de Glastonbury, du tombeau d'Arthur, on croyait qu'il était à Avalon, qu'il était parti dans une île féerique, qu'il devait revenir pour redonner aux Gallois, aux Bretons battus par les Saxons, pour leur redonner la victoire. Eh bien non, les Plantagenets, Richard Cœur de Lion, à la suite d'une indication de son père, Henri II Plantagenet, et le mari d'Aliénor d'Aquitaine, eh bien Richard Cœur de Lion s'arrange pour que son oncle, abbé de Glastonbury, découvre ce tombeau, Arthur et Guenièvre, tous les deux, avec une croix renversée qui contient l'indication précise par une inscription épigraphique que c'est bien à Arthur et à Guenièvre que l'on a affaire. Donc c'était une occasion rêvée pour les Plantagenets, pour Richard Cœur de Lion, ce Normand, Angevin, Poitevin aussi, ce Français, ce continental, pour montrer à ceux qui auraient des velléités irrédentistes de révolte contre le pouvoir normand que Arthur n'en déplaise aux Celtes, qui étaient au pays de Galles, toujours prêts à lutter contre les Normands, eh bien, Arthur ne reviendra jamais, puisqu'on a trouvé son cadavre accompagné de celui de Guenièvre. Et pour les moines, c'était aussi l'aubaine, puisque le monastère sortait d'un incendie, qu'il n'avait pas de reliques trop prestigieuses pour attirer les foules. Certes, il prétendait avoir les reliques de Saint-Patrick, mais les Irlandais n'étaient pas très contents, puisqu'ils réclamaient aussi le tombeau de Saint-Patrick chez eux, puisque c'était l'évangélisateur de l'île verte, de l'Irlande. Et donc, ils ont trouvé, comme par hasard, ce roi prestigieux, si l'année, et ils ont attiré ainsi les foules, les pèlerinages, les donations aussi. Et en même temps, les moines sont conscients que Arthur sent un peu le soufre. C'est un personnage qui vit sans vivre, c'est un héros évémérisé. Bon, c'est un terme un peu savant qui signifie ces demi-divinités, ces guerriers celtes qui ont été tués au combat. Mais vous savez, les frontières entre le monde des vivants et les mondes des morts dans le monde celtique n'est pas très marquée. Il y a des passerelles, en particulier par la mer, où il y a des animaux, des cerfs, des sangliers, qui vous montrent comment accéder à l'au-delà. Bref, ce n'est pas très chrétien, alors qu'avoir un roi bien enterré dans un monastère, au contraire, surtout que ces monastères, à partir du XIIIe siècle, sera aussi le lieu où Joseph d'Arimathie est enterré. Joseph d'Arimathie, dans les évangiles, est celui qui descend le Christ de la croix et qui le met au Saint-Sépulcre avant la résurrection. Mais au Moyen-Âge, à partir des apocryphes, les apocryphes, ces évangiles qui n'ont pas été canoniques, qui n'ont pas été reconnus par l'Église, mais qui contiennent des légendes pieuses qui alimentent la religiosité des gens ou la prédication, eh bien, les apocryphes nous racontent que Joseph a joué un rôle très important pour se battre contre les Juifs qui avaient condamné le Christ à mort et pour revendiquer la divinité du Christ. Et à partir du XIIIe siècle, on dit qu'il a non seulement évangélisé la Grande-Bretagne, à une époque où les Bretons veulent montrer qu'eux, ils ont des reliques plus prestigieuses que... Enfin, les Bretons, les Anglais, puisque là, on n'a plus de Bretons, sauf au Pays de Galles, au XIIIe siècle. Les Anglais veulent montrer la supériorité de leurs reliques par rapport à celles que Saint-Louis vient d'apporter à la Sainte-Chapelle, la Sainte-Couronne, ou les reliques de la crucifixion. Eh bien, les Anglais disent « Nous avons quelque chose de bien meilleur à Glastonbury, nous avons le Graal, parce que Joseph d'Arimathie avait pris le sang du Christ dans ces vases superbes qui avaient servi auparavant à l'institution de l'Eucharistie lors de la scène. Donc le Christ avait consacré le pain dans ce vase et puis il l'avait apporté et Joseph l'avait récupéré ensuite et il s'en était servi pour ramasser son sang. Et cette relique superbe, le Graal que tout le monde quête, des chevaliers, elle est aussi à Glastonbury, avec surtout les restes de Joseph. Vous voyez donc comment on joue sur les reliques, sur les symboles. Et Arthur trouve aussi son tombeau dans ces lieux extrêmement prestigieux de l'évangélisation.
Alors, on voit vraiment, dès le début de cette émission, qu'il s'agit d'un sujet complexe où autant la religion que l'histoire politique sont en jeu. Je voudrais quand même revenir à cet ouvrage de manière générale. C'est une période très vaste. Vous étudiez une période qui va du VIe siècle jusqu'au XIVe siècle. C'est une période où les sources sont importantes, je l'ai dit, et aussi l'historiographie, parce que vous avez plus de 150 pages de notes. C'est un livre... pour moi, enfin d'après moi, qui va faire référence dans l'histoire. Combien de temps pour écrire un tel ouvrage ?
Bon, ce livre m'a pris 4 ans, mais je suis un universitaire assez privilégié puisque j'ai peu d'heures à enseigner dans la mesure où je suis dans une institution qui s'appelle l'Institut universitaire de France où une quarantaine de professeurs tous les ans sont choisis pendant 5 ans pour ne faire rien d'autre pratiquement que de la recherche, très peu de cours. Donc j'avais du temps, j'ai pu partir à Oxford notamment pendant 2 mois et aussi dans des bibliothèques américaines où on travaille très vite, sans parler de mon centre de recherche à Poitiers. Puisque ces sources sont éditées avant les années 1250, tous les ouvrages arthuriens ont fait l'objet d'éditions plus ou moins bonnes par des érudits depuis le 19e siècle. Donc l'historien dispose d'un matériau brut. Et puis il y a l'historiographie, comme vous avez très bien expliqué.
Alors l'historiographie est très importante. Cette historiographie remonte non pas à des siècles, mais simplement, vous expliquez, au 19e siècle. Cette étude du roi Arthur correspond au romantisme du 19e siècle ?
tout à fait. Le romantisme a beaucoup compté pour éveiller ce goût pour une matière, pour une littérature qui est faite de féeriques, de merveilleux, d'êtres extraordinaires, des géants, de nains. Tout ce grotesque ne plaisait pas du tout au XVIIIe siècle, à l'époque classique. Et puis le romantisme a été relayé par le réalisme et le versant scientifique du réalisme, c'est le positivisme. Le positivisme, c'est le texte peut nous apprendre des choses sur la réalité. Y compris les textes littéraires, les positivistes s'inspirent du réalisme de Balzac. Balzac disait que le roman devait être le miroir que l'on pose sur le chemin, un miroir, un reflet. Si nous voulons étudier les notaires du XIXe siècle à Paris, nous en apprendrons davantage dans les romans de Balzac qu'en dépouillant leur registre notarié. Donc, je veux dire que ces gens, les positivistes du XIXe siècle, considéraient que ça valait la peine d'éditer ces textes qui allaient nous donner une bonne image de la société, de la culture du temps. Et puis, on est passé à l'extrême opposé à partir de 1968, qui est une véritable rupture dans notre histoire intellectuelle, pas seulement notre histoire sociétale. C'est l'apparition de ce qu'on appelle, avec une étiquette un peu facile pour être précise, le postmodernisme, la maxime de Jacques Derrida, il n'y a rien en dehors du texte. Tout est dans le texte, les textes se renvoient les uns aux autres, mais ce n'est pas en les lisant qu'on peut apprendre des choses réelles. Il y a des thèmes qui sont perpétués et qu'on peut étudier d'une façon intertextuelle. Et donc, on est là dans un tout autre extrême. Donc, un historien, il doit tenir compte de ces deux tendances pour essayer de trouver un peu le juste milieu, parce que la littérature en tant que telle nous apprend beaucoup. Beaucoup de ces textes sont inspirés les uns des autres, se recopient, en particulier la légende arthurienne. C'est une réécriture constante présentée sous des jours nouveaux. Ces ouvrages, donc c'est un peu cette historiographie qui est très savante, qui est superbe, qui est très riche, qui m'a fasciné. Les travaux des collègues sont toujours formidables. Mmh.
Et nous le répétons souvent dans cette émission, il faut, en tant qu'historien, il faut parler plusieurs langues pour pouvoir accéder à cette historiographie étrangère. Je reçois Martin Aurel, auteur du livre « La légende du roi Arthur » paru aux éditions Perrin. Nous nous retrouvons après cette première pause.
Jean-Luc Pinceau, le créateur de la troupe du Petit Miroir, spécialisée dans le théâtre des marionnettes chinoises, est lauréat depuis le 11 juin 2007 du prix de la Fondation franco-culturelle taïwanaise. Vous êtes amateur de théâtre, venez découvrir ce théâtre très populaire à l'origine de l'opéra chinois. Depuis le XVIe siècle, à Taïwan, les marionnettes honorent les divinités. Ce théâtre cultuel est aujourd'hui un élément fort de la culture taïwanaise. Alors installez-vous confortablement, venez écouter l'émission Point de mire et levons ensemble le rideau sur un genre théâtral qui invite au voyage. Retrouvez l'émission Point de mire, la culture taïwanaise dans le miroir des marionnettes.
Vous écoutez Canal Académie.
Je reçois Martin Aurel, auteur du livre « La légende du roi Arthur », paru aux éditions Perrin. Nous avions laissé nos auditeurs sur cette idée que votre ouvrage est une œuvre vraiment complexe puisqu'elle touche à la fois des textes religieux, elle touche à la fois des textes laïques, elle fait appel à la géographie, à l'histoire des perceptions. L'œuvre entourant « La légende du roi Arthur » est une œuvre qui se diffuse, je le disais en introduction, autant par voie orale que par voie écrite. La voie écrite étant en quelque sorte un miroir de tout ce qui se disait, se transmettait oralement.
Oui, c'est la partie émergée de l'iceberg, véritablement cette oralité sur laquelle nous n'avons pas d'idée. La mémoire colossale de ces bardes, ces gens qui appartiennent à la classe sacerdotale, à la classe druidique dans les anciennes civilisations celtes, qui se transmettent à l'intérieur de la famille, en savoir, qui mémorisent des centaines de milliers de vers, et qui sont aussi à leurs heures creuses des chamans qui peuvent prophétiser quand ils entrent en transe et qui partent dans l'au-delà, d'où l'importance du prophétisme dans cette littérature, les prophéties de Merlin. Donc cette littérature orale, bien entendu, nous échappe, sauf dans des cas assez exceptionnels où l'on a conservé ces manuscrits. Vous avez cité au début de l'émission les nombres de manuscrits. Ça peut paraître des chiffres dérisoires au regard de nos tirages, mais pour le Moyen-Âge, c'est
énorme. Alors, la popularité d'Arthur, on le voit tout au long de la période que vous étudiez, 6e, 14e siècle, vit des hauts et des bas, en quelque sorte, comme des épisodes. Arthur est parfois adulé, parfois moqué selon les époques.
Oui, vous voulez dire a posteriori, à partir de l'époque moderne, oui, Rabelais met Arthur à l'enfer en train de ramer. C'est vrai que Shakespeare aussi, il donne des noms arthuriens aux clowns de ses pièces. En revanche, c'est au XIXe siècle qu'Arthur, par le romantisme, et surtout au XXe siècle en Angleterre, qu'il redevient à la mode. Vous savez, les Anglais ont un rapport, les Anglais actuels, très étrange à l'égard de la celtitude, de leurs racines bretonnes au sens propre. Quand on parle de Bretons, c'est par opposition aux populations germaniques, les Anglo-Saxons, qui sont arrivés en Grande-Bretagne, ces Celtes qui habitaient dans l'île, qui surtout, ils ont subsisté sans aucune conquête à l'époque médiévale en Irlande. Eh bien, ces Celtes, donc, qui, tout à coup, redeviennent très populaires après la guerre. Churchill a un discours très célèbre où il compare la lutte de la barbarie, de la civilisation contre la barbarie, à la lutte d'Arthur contre les Anglo-Saxons. Et c'est nouveau parce que pour les Anglais, qui avaient une royauté originaire d'Hanovre, les gens importants, c'était les Germains. Et Arthur, ce n'était pas intéressant. C'était, à la rigueur, le héros de la résistance galloise. Il se méfiait des Gallois parce qu'il n'acceptait pas la centralisation de la couronne britannique. Et à partir des années 45, au contraire, pour des raisons qu'on comprend, après la Seconde Guerre mondiale qui a été menée contre les Allemands, les Anglo-Saxons, les peuples germaniques qui ont peuplé l'Angleterre, passent à la trappe et les Anglais se passionnent pour Arthur. La moindre découverte à Tintagel, un site celtique qui est soi-disant celui de la conception d'Arthur, donc c'est là qu'il a vu le jour, eh bien, est monté en épingle par la BBC, par la presse. Donc, comme vous l'avez très bien remarqué, l'image d'Arthur a beaucoup évolué au cours des décennies.
Alors, on va en venir au fait, parce que je pense que les auditeurs ont la soif de savoir ce qu'il en est exactement, d'autant plus que j'ai remis en cause l'idée, alors j'allais dire j'ai remis en cause, vous remettez en cause l'idée de l'existence d'Arthur, et vous l'affirmez dès les premières lignes de la première partie, vous n'y allez pas par quatre chemins, Arthur, écrivez-vous, n'a vraisemblablement jamais existé.
Oui, du moins le roi Arthur, un roi de la Grande-Bretagne qui a combattu et qui a expulsé les Anglo-Saxons de l'île autour de 500, tel qu'il sera historisé, créé par l'historiographie du IXe siècle, celui-là n'a jamais existé. En revanche, nous avons sept personnages qui portent ce nom autour de 600, qui sont des personnages de l'ouest de la Grande-Bretagne, qui proviennent de familles irlandaises d'origine royale, chefs des tribus, installés dans ce qu'on appelle le Dal Raida, ces royaumes irlandais du nord de l'Irlande, de l'Ulster et du sud de l'Écosse, qui portent ce nom. Et ce sont des guerriers, des gens de haut rang. Alors, est-ce que l'un d'entre eux pourrait être Arthur? Malheureusement, rien ne le prouve. Il y a quand même un petit indice, c'est que dans la première mention littéraire d'Arthur, un poème qui s'appelle Les Gododines, du nom d'une tribu d'Édimbourg qui a mené une campagne dans le Yorkshire contre les Anglo-Saxons, eh bien, il y a une comparaison d'un de ces guerriers tombés à la bataille en Celte. Arthur, il était aussi courageux comme Arthur. Il donnait les cadavres aux corbeaux noirs, les cadavres de ses ennemis. Alors, cette littérature épique-là, très souvent, prend des comparaisons avec des gens qui ont existé, rarement avec des mythes. Et donc, ça serait un indice de son existence. Mais en tout cas, tel qu'il est raconté à partir du XIIe siècle, cet Arthur-là n'a pas existé, c'est évident.
Nous allons revenir, bien évidemment, sur le XIIe siècle, mais restons sur la genèse. Ainsi, il n'a pas existé dans l'histoire. On se doute que le mythe arthurien a une genèse. Et vous commencez votre récit en 410, quand l'empereur Honorius écrit aux villes bretonnes afin qu'elles assurent elles-mêmes leur défense. Mais ce n'est qu'au VIe siècle que l'on mentionne le nom d'Arthur. Alors, il y a cet empereur Honorius qui parle de défense. Ça veut dire que le mythe arthurien est lié à la défense de l'île, à la défense de cette unité géographique.
Oui, vous avez mis l'accent sur un point très important. Il y a une dimension de propagande. d'instrumentalisation du personnage. Je vous ai parlé tout à l'heure de ces héros, de ces gens qui vivaient dans l'au-delà, mais qui pouvaient revenir sur Terre. On a le même exemple pour Gauvin. Arthur, lui, est à Avalon, où des fées aimantes soignent ses plaies, en particulier sa sœur, Morgane, mais il peut revenir. On a des textes très significatifs. Autour de 1140, il y a une grande révolte au pays de Galles contre la domination normande, les Gallois qui profitent des divisions internes de Normands lors de la guerre civile, donc une guerre de succession au trône. Et il y a un texte qui dit « Les Normands ont été battus à plusieurs reprises par les Gallois qui ont repris les armes et les Gallois disent qu'au nom d'Arthur, Arthur qui doit revenir, ils reconquerront, ils domineront à nouveau la Grande-Bretagne. » Les Gallois qui sont les seules populations celtes avec les Écossais qui ont subsisté aux invasions anglo-saxonnes puis Normande. À partir de 1066, ce sont les Normands avec Guillaume le Bâtard qui prennent l'île. Donc, c'est un instrument de propagande, c'est évident. Est-ce que c'est un personnage mythique? Vous souleviez le problème tout à l'heure. C'est vrai que son nom renvoie à l'ours. Or, l'ours...
Arthur, oui, signifie l'homme-ours.
Exactement, l'homme-ours. On sait que les guerriers du haut Moyen-Âge empruntent très souvent le nom de animaux dont ils aimeraient récupérer les forces. Mais pour revenir à la résistance, il est très curieux de remarquer que autant Martial, un auteur romain, mentionne des ours qui, au 1er siècle, étaient montrés dans les cirques au Colisée de Rome, qui venaient de Grande-Bretagne, autant à partir du 6e, 7e siècle, l'ours marron, la race britannique, s'est réfugié dans les montagnes du pays de Galles. Justement, c'est le dernier réduit de la résistance galloise contre les anglo-saxons. Donc, comme s'il y avait aussi cette volonté de récupérer un animal un peu symbolique dans cette lutte contre les anglo-saxons.
Alors, cette période que l'on qualifie un peu de période galloise des premiers siècles où émerge ce roi Arthur, eh bien, nous sommes à une époque où nous sommes en quelque sorte à la croisée du paganisme et du christianisme.
Oui, cette acculturation chrétienne. Vous savez, nous ne conservons qu'une dizaine de poèmes en langue cymrique, en langue galloise, qui parlent d'Arthur. Et là, c'est très typé, c'est très païen. C'est un héros qui navigue. C'est ce qu'on appelle l'Imrama en langue irlandaise, c'est de navigation. Mais au-delà des mers, vous pouvez aboutir à des îles où vivent des femmes superbes qui connaissent l'immortalité. Il suffit de manger une pomme et vous vivrez éternellement dans une jeunesse incorruptible. Et dans ces îles, vous pouvez obtenir des talismans. Excalibur a été forgé à Avalon. Et ces personnages donc reviennent ensuite avec ces talismans pour dans le monde des vivants. Vous voyez, il n'y a presque pas de frontière entre l'au-delà et l'en-deçà. Et avec ces armes, ils remporteront des victoires au service de leur peuple. Et puis, il y a d'autres mythes qui sont derrière. Le rapt de Guenièvre, le rapt de l'épouse d'Arthur, c'est le mythe d'Orphée. Orphée descend aux enfers pour récupérer son épouse. Et d'une certaine façon, Guenièvre est ravi par Méloïs, le futur Mordred, qui est le dieu, plutôt le diable infernal, qui enlève, lors de l'hiver, la végétation de la terre. Mais si on récupère cette végétation dans l'au-delà, il y aura la reverdie, il y aura le printemps. Et cet éternel retour qui est très marqué dans la civilisation païenne, celtique, on le retrouve aussi autour de beaucoup de contes, de mythes liés à Arthur.
Oui, on le voit bien dans le film, par exemple, de John Borman, ce lien entre paganisme et on voit Merlin, paganisme et christianisme. On voit Merlin, d'ailleurs, le dire dans le film. Dans ces textes gallois, on recherche une généalogie et ce sont les textes gallois qui contentent simplement de citer Uther étant le père, Lachro, je suppose que ça se prononce comme cela, son fils, et Guenièvre. Vous citiez également le rapt de Guenièvre. La séduction, le rapt, l'adultère font partie des éléments clés du mythe arthurien.
Oui, oui, oui. Donc, il y a cette dimension cyclique de l'éternel retour des saisons. Il y a aussi une dimension beaucoup plus historique. Ces populations du haut Moyen-Âge, les Celtes contre les Saxons, se battent pour quoi? Ils se battent pour du butin. Ils mènent des campagnes, des expéditions guerrières très loin de leur base parce qu'ils savent qu'il faut attaquer l'ennemi au cœur de ses terres pour prendre ses troupeaux, pour prendre aussi des femmes et des enfants qu'on réduira en esclavage ou qu'on vendra ensuite. Et donc, le rapt de la femme, c'est aussi lié parfois, outre le rapt de l'étrangère, c'est aussi le rapt de la reine. On pense que les sociétés celtiques ou certaines tribus étaient des sociétés polyandriques. La femme avait plusieurs maris et celui, mais à succession d'une façon sérielle, celui qui épousait la reine devenait le roi. Donc c'est elle qui transmettait la souveraineté. Alors le rapt de Guenièvre, c'est peut-être aussi cette lutte pour des femmes entre chefs de tribus pour accéder à la souveraineté. Donc, il y a tous ces thèmes qui se retrouvent dans ce mythe.
Alors, nous sommes à une époque vraiment où le mythe, où les textes arthuriens commencent à se développer. Pourtant, Arthur ne forme pas, j'allais dire, le titre des différents textes, à savoir que, par exemple, vous présentez l'histoire de Kulfc et d'Olwen, qui sont censés être les personnages principaux d'un texte, mais très vite apparaît Arthur et ses chevaliers qui prennent au fur et à mesure de la première place. C'est un phénomène que l'on rencontre systématiquement, c'est-à-dire que le Arthur n'est pas en première place de la thématique littéraire et qu'il devient au fur et à mesure, ça participe de ce mythe.
Oui, vous avez raison, je n'avais pas pensé effectivement à cet aspect d'un Arthur qui occupe tantôt le premier plan, tantôt le second plan. Et dans Kulfc et Olwen, c'est conte des Mabinogi, c'est conte gallois.
Une histoire d'amour.
Voilà, une histoire d'amour. Donc, un jeune qui veut épouser la fille d'un géant. D'ailleurs, sa marâtre, qui déteste ce jeune homme, lui a jeté un sort, le nouement des aiguillettes. Donc, il sera impuissant, sauf s'il épouse la fille du géant, Olwen. Et pour obtenir la main de cette jeune fille, il faut d'abord qu'il arrache quelques talismans, une centaine de talismans. Il fait donc ce voyage dans l'au-delà, mais il se sent très faible face à ses aventures. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va voir son oncle. Il va voir Arthur qui le reçoit, qui l'adopte par un rite de... C'est en coiffant sa chevelure, Arthur en fait un membre de sa camaraderie guerrière. Il le prend pour fils pratiquement. Donc c'est Arthur qui le coiffe. La coiffure a une très grande importance pour les populations celtiques avec tous ces anneaux, tous ces bijoux que l'on porte sur les cheveux, puisque le bijou, c'est aussi un signe de ce butin qu'on a acquis chez l'étranger. Et puis cet homme donc est intégré dans une bande guerrière où l'on voit déjà se dessiner les futurs chevaliers de la table ronde au XIIe siècle, donc des guerriers comme Queux qui est le sénéchal d'Arthur au XIIe siècle, mais déjà dans ses romans qui peut remonter au VIIe, VIIIe siècle, on voit apparaître ces guerriers qui vont t'aider à l'obtention de ces talismans et ils viennent tous de l'entourage d'Arthur.
Alors en fait, à travers ce conte, on commence à lire tout simplement le tableau d'une aristocratie. C'est ce que nous allons voir, Martin Aurel, après cette deuxième pause. Nous entamons la troisième partie de cette émission, donc consacrée à la légende du roi Arthur, à ce monde littéraire qui s'étale du VIe siècle au XIVe siècle et qui présente sous différentes variations, sous différentes donc, histoires, tout simplement l'histoire du roi Arthur, la légende du roi Arthur. Alors, nous avons laissé nos auditeurs sur l'idée que, au fur et à mesure, comme vous le disiez tout à l'heure, un peu avec Balzac, Le conte arthurien est un conte qui est à l'image de la société de l'écrivain, du barde et de l'auteur.
Oui, et pour poursuivre cette réflexion, on a parlé du haut Moyen-Âge. Quand nous analysons les textes du XIIe siècle, c'est un tout autre monde qui apparaît. Arthur est devenu un roi courtois. Ce n'est plus un guerrier qui chasse le sanglier. S'il chasse, il chasse le cerf, le blanc cerf. C'est très significatif parce que l'animal est souvent un passeur. Le sanglier pour les peuples du haut Moyen-Âge, les Celtes, pour les populations du XIIe siècle, c'est lui qui vous mène vers la fée. C'est très souvent le blanc cerf, mais en même temps, les gens du Moyen-Âge se battaient contre le sanglier sans, à pied, avec une seule lance. C'était courageux, mais c'était parce qu'ils risquaient beaucoup. Les gens du XIIe siècle, c'est la chasse à cour, à cheval, c'est beaucoup plus sophistiqué, c'est aristocratique, et puis il n'y a aucun risque, puisque ce sont des cerfs. Vous voyez, c'est un petit détail qui montre bien que nous sommes dans un autre monde, un monde aussi où l'amour courtois compte beaucoup. Et le thème de l'amour courtois dans la littérature arthurienne, probablement importé du Midi, ou bien il y a des traditions celtiques aussi, c'est-à-dire apparaît dans le XIIe. C'est l'idée que l'amour de la femme peut vous aider à vous dépasser au combat, au tournoi. Vous allez réaliser des exploits militaires pour les yeux de votre belle. Et cela va vous donner du courage. Et puis aussi, ça va vous apprendre une certaine civilisation, des mœurs. Vous allez être beaucoup plus délicat dans la vie sociale. Vous allez avoir recours beaucoup moins à la violence. Et il y aura des règles à la guerre. En particulier, il faut respecter le combattant que vous avez vaincu, qui est désarmé. Vous ne pouvez pas lui ôter la vie. Vous lui devez la merci. Et il y a donc des mœurs qui changent, même du point de vue de l'attirail du combattant. On ne combat plus à pied avec une épée, on combat avec une pique, une lance que l'on tient sous son aisselle et qui est coincée. Puis on profite de la force du galop d'un cheval que l'on tient de sa main gauche, on tient la lance de la droite. Donc on est dans un tout autre monde. Et justement, les écrivains qu'utilisent ce que l'école de Constance appelait les effets de réel, les horizons d'attente d'un public changent aussi parce que leur public n'accroche plus avec des chasses de sangliers puisque l'aristocratie ne chasse plus le sanglier, vous voyez.
Alors, ce qui est intéressant, justement, un des grands changements que vous montrez à travers votre ouvrage, c'est qu'il existe des vies de saints qui citent Arthur. Et là, dans ces vies de saints, on a clairement une intention morale, une intention religieuse.
Oui, nous ne sommes plus dans le monde de ces chansons des bardes extrêmement païens. Nous sommes dans le monde des monastères du pays de Galles, ou bien Glastonbury, mais Glastonbury est très près de la frontière galloise. On est déjà dans le Somerset, donc à l'occident de l'Angleterre. Eh bien, on a affaire à des saints qui réussissent à vaincre Arthur. Par exemple, Arthur veut combattre un dragon et il n'y arrive pas. On a bien sûr la littérature celtique sur le continent, en Petite-Bretagne, en Bretagne armoricaine. Il y a un saint, Saint-Eflamme, qui est vénéré à Perros-Guirec, dans les Côtes d'Armor. C'est de cette anecdote. Arthur arrive, il demande à l'ermite, je suis à la poursuite d'un dragon. L'ermite lui indique où est le dragon, mais Arthur, avec son épée, n'arrive pas à le vaincre. Il est très fatigué. Et l'ermite arrive et il apprivoise le dragon et il lui dit de partir, de ne plus nuire aux populations. Alors Arthur apparaît toujours comme un être un peu cupide qui veut voler des objets à l'ermite, un être très sensuel qui veut ravir les femmes qui passent par là. Et donc, mais malgré tout, il a un bon fond. C'est un bon païen et on peut le convaincre, on peut l'attirer vers la foi. Donc, il y a un peu cette lutte entre le paganisme et le christianisme. Peut-être pas une lutte, parce qu'il y a une dialectique qui est plus subtile. Le christianisme a récupéré, d'une certaine façon, a su acculturer à la nouvelle religion, à l'évangile, des traditions païennes, sans beaucoup de problèmes. Le mythe de l'éternel retour, vous le retrouvez aussi dans la liturgie. La résurrection, ça coïncide avec le printemps, c'est le retour de la nature, vous voyez. Donc, il n'y a pas tout à fait une lutte, il y a une récupération d'une certaine façon, une acculturation.
Alors, vous présentez deux auteurs qui sont très importants. Un premier auteur qui est Geoffroy de Monmouth, je pense bien prononcé, qui est, dites-vous, un pur produit de la Renaissance culturelle. Il faut parler vraiment de Renaissance culturelle au XIIe siècle. Quel est l'apport de Geoffroy à la légende arthurienne?
Il est capital. C'est Geoffroy qui a véritablement donner ses lettres de noblesse et internationaliser la légende arthurienne. Cette légende qui appartenait au pays de Galles, lui-même est gallois d'ailleurs, probablement d'origine armoricaine, d'origine bretonne. Son père ou son grand-père sont arrivés avec les troupes de Guillaume le Bâtard qui ont colonisé le sud du pays de Galles. Cet homme se passionne par la légende arthurienne et il la met en latin dans l'histoire du roi de Bretagne. Arthur devient un roi extrêmement sophistiqué, extrêmement savant. Il a une cour superbe. Tout le monde en Europe veut venir vers le pays de Galles pour parler avec lui. Et puis, ce texte est tellement bien écrit qu'il va être traduit aussitôt en français, mais en dialecte anglo-normand. Le dialecte que parlait la noblesse normande, ou les Normands qui avaient conquis la Grande-Bretagne, puisqu'il y a eu un remplacement radical en 1066, après la bataille de Hastings, de la noblesse anglo-saxonne par les Normands. Eh bien, le français est une langue culturelle, une langue de l'aristocratie aussi, et Vasse en particulier nous donne une très très bonne traduction de l'histoire du roi de Bretagne, la geste arthurienne, ça s'appelle le Brut, et le Brut va se diffuser très vite partout en Occident. Et puis il y aura Chrétien, bien sûr, Chrétien de Troyes, qui est un écrivain génial, probablement le meilleur romancier du Moyen-Âge, qui écrit 5 romans arthuriens.
Alors, on va revenir à Chrétien de Troyes. Je voudrais rester un peu sur Geoffroy. C'est l'histoire de Bretagne. Et l'histoire de Bretagne, est-ce qu'on peut parler, entre guillemets, d'une forme de patriotisme chez lui ?
Oui, Geoffroy est un homme qui subit les railleries d'autres historiens qui sont des anglo-saxons. Guillaume de Malmesbury, Robert de Torigny, Henry de Huntington, enfin, ou des Normands, qui évoluent auprès du même mécène que lui, c'est-à-dire Robert de Gloucester, le fils bâtard du roi défunt d'Henri Ier. Et Robert s'intéresse beaucoup aux Gallois et il demande à Geoffroy d'écrire cette histoire parce que lui, il veut montrer que les Bretons, c'est un très grand peuple. Ils ont eu Arthur et ils descendent des Troyens. Ils descendent de ces hommes qui n'ont jamais accepté de se soumettre aux Grecs après la conquête de Troie et qui ont fondé les grandes nations européennes. Ils ont fondé les Francs, ils ont fondé les Lombards, ils ont fondé aussi les Bretons, les Gallois. Et donc, il y a cette sorte de revanche contre les mépris des Anglo-Saxons et des Normands qui traitent les Gallois de barbares. C'est des gens qui montent à cheval sans étrier, qui, au lieu de combattre noblement avec des épées et corps à corps, ils lancent des javelots. Ils ont des chaussures extrêmement étranges, de rafflings, où le côté poil du cuir est à l'extérieur. Donc, ce n'est pas du tout le côté chair, comme dans nos mocassins ou dans nos chaussures. Donc, et qui pue en plus. C'est les vieilles traditions que l'on retrouve déjà chez Martial. Les Bretons ne savent pas porter la toge. Ils n'ont pas cette distinction au sens que Pierre Bourdieu donnait à ce terme. Donc, il y a un rejet de l'autre. Et pour lui, au contraire, son patriotisme gallois ou panceltique, parce que c'est un homme qui est peut-être breton de Petite-Bretagne continentale, nos Bretons à nous. Donc, c'est de dire, attention, nous sommes d'une civilisation beaucoup plus ancienne que la vôtre. Nous avons créé des villes, nous avons fondé Londres, nous avons tué les gens qui peuplaient la Grande-Bretagne quand nous sommes arrivés de Troyes. Et pourquoi nous sommes arrivés de Troyes ? Parce que nous avons fui la servitude des Grecs. Nous ne voulions pas vivre comme des esclaves, nous préférions mourir. D'ailleurs, nous nous battons encore au Pays de Galles contre la domination normande ou anglo-saxonne avant. Donc, nous sommes un grand peuple qui a une ancienneté plus grande que la vôtre. Donc, il y a ces discours qui transparaissent dans le livre de l'histoire du roi de Bretagne de Geoffroy de Monmouth.
Alors, l'histoire du roi Arthur dans l'histoire de Bretagne est la plus belle, en quelque sorte, dans la mesure où Arthur, là, cette fois, est à la tête d'un immense empire, où Geoffroy introduit les valeurs chevaleresques, l'éloge de la courtoisie.
Oui, tout à fait. Il conquiert même Paris. Il bat le préfet Frolon sur l'île de la Cité en duel singulier. Et puis, il arrive jusqu'aux portes de Rome. Il allait conquérir, comme ses ancêtres bretons, d'ailleurs, Belin et Brenne. Mais vous voyez, c'est une affabulation, cette histoire, c'est une fiction. Geoffroy, c'est un génie, mais c'est aussi quelqu'un qui fait de la littérature beaucoup plus que de l'histoire, qui joue sur les deux registres, vérité et fiction, qui mène un peu en bateau son lecteur. Mais pour lui, Arthur arrive aux portes de Rome, mais il apprend la révolte de son neveu maternel, son neveu par sa sœur Anne. Donc, c'est une relation privilégiée qu'il avait avec lui, avec Modred. Or, Modred a commis la pire des transgressions. Il lui a pris la femme, il a pris sa tante, Guenièvre, et il prend le pouvoir aussi. Donc, il doit rebrousser chemin et il bat, il tue Modred, mais il est blessé dans cette bataille qui est la fin du monde arthurien, la bataille de Camlann. Mais c'est sûr qu'Arthur a accompli une œuvre colossale. C'est le héros des Bretons, véritablement.
Alors, on en arrive à la fin du XIIe siècle, avec Chrétien de Troyes. Les textes sont en langue française. La légende arthurienne s'est développée à travers l'Europe ?
beaucoup, oui. Chrétien de Troyes est un génie qui a, lui, il, sans avouer sa fiction, parce qu'il y a toujours un artifice littéraire, un pacte fictionnel avec le public, on sent que ces romans ne sont plus possibles du tout. Et il y a trop de dragons, de géants, de fées pour qu'ils deviennent une réalité, trop de merveilleux. Et cet homme qui croit au roman, il va populariser le genre romanesque et il va le répandre partout en Europe. Il y a le Parsifal de Wolfram von Eschenbach, pour ne parler que de la littérature allemande, mais il y a aussi les différentes demandas dans la péninsule ibérique ou en Italie, le travail de Rusticien de Pise. D'ailleurs, en Italie, on a très tôt, avant Chrétien, des représentations dans les cathédrales du roi Arthur, ce qui montre qu'il y avait une tradition orale, comme vous l'avez très bien dit avant, qui répandait par des jongleurs cette légende. Mais grâce à Chrétien, le thème devient universel. Il se dépolitise aussi, il est moins au service de la lutte galloise ou bretonne contre les Normands.
Martin, Aurel, nous nous retrouvons après cette toute dernière pause.
Tout ce qui touche la Grèce touche Jacqueline de Romilly. Écoutez-la parler des arbres, commenter Sophocle et l'olivier, Platon et le platane, raconter la mythologie du laurier. Jacqueline de Romilly, un arbre pour la Grèce, dans l'émission Focus sur Canal Académie.
Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée à la légende du roi Arthur. Je reçois Martin Aurel, professeur d'histoire médiévale. Et alors, je ne l'ai pas dit avant la pause, mais vous êtes responsable d'un séminaire de recherche qui est consacré à l'œuvre de Chrétien de Troyes et la société. Et vous laissez en quelque sorte vos étudiants sur une interrogation. Vous leur demandez si cette œuvre, il s'agit d'un miroir ou d'un mirage. Et on retrouve un peu la même chose dans votre ouvrage.
Oui, du point de vue méthodologique, c'était le point le plus important. Comme je vous le disais au début, souvent on en apprend beaucoup plus en lisant des romans sur les mentalités, sur la culture, mais même sur la vie quotidienne de nos contemporains. Le tout est de comparer ces sources avec d'autres plus fiables, entre guillemets, disons plus positivistes et plus claires. Mais miroir, mirage, c'est un peu le fil conducteur de ce livre. Vous faites bien de le remarquer, merci. Mmh.
C'est un personnage passionnant, hein, Chrétien de Troyes, j'allais dire presque insaisissable.
Oui, on a très peu de documents de lui. Nous sommes dans le Champenois, en Champagne, pardon, dans la région de Troyes. Or, malheureusement, il n'y a pas ce goût pour l'acte juridique qu'on retrouve dans le Midi, ou même ce goût pour l'administration qu'on retrouve en Angleterre au XIIe siècle. Donc, on a peu de documents. Mais les spécialistes avance qu'un chrétien, comme c'est un nom très peu répandu, qui apparaît en tant que chanoine de Saint-Loup de Troyes, un chapitre fondé par Henri le Libéral et par Marie de France, le comte et la comtesse de Champagne, il pourrait être donc ces chrétiens-là qui est attesté dans les sources. Donc, ça serait un chanoine. Moi, je penche sérieusement pour cette hypothèse parce qu'il y a deux autres cas. Geoffroy de Monmouth et Vasse, dont on a parlé, tous les deux, on le sait objectivement, sont des chanoines, sont des clercs, des gens qui vivent dans une communauté de savants, à 6 ou 7, dans un chapitre, où ils reçoivent des étudiants, ou bien tout simplement, où ils écrivent, où ils réfléchissent, des gens qui vivent le célibat pour se consacrer pleinement à leurs études, et qui reçoivent parfois la prêtrise, même l'épiscopat, c'est le cas de Geoffroy de Monmouth, qui à la fin de ses jours est devenu non seulement prêtre, mais évêque aussi, et qui profite de prébendes, c'est-à-dire des bénéfices, à une pension qui leur est versée à partir du patrimoine du chapitre, ou bien par le roi, par un mécène, vous voyez, qui se consacre au culte aussi, qui consacre un certain nombre d'heures à la louange de Dieu, et puis qui écrivent, qui réfléchissent, qui constituent des bibliothèques. C'est un peu ce milieu chrétien.
Alors, Chrétien de Troyes a la bonne idée, si je puis dire, de laisser son œuvre inachevée. Alors, pourquoi bonne idée? Tout simplement parce que vous expliquez qu'il aura de nombreux continuateurs.
Oui, soit qu'il l'ait voulu, soit qu'il soit mort en cours de route. Mais c'est vrai que le conte d'Igral qu'il laisse inachevé est un des plus grands mythes de l'Occident. Non pas qu'il ait commencé avec lui, mais lui, il va lui donner... En tout cas, c'est le premier témoignage écrit, explicite, le conte d'Igral, le Perceval, de Chrétien de Troyes. Alors, c'est cette histoire fabuleuse, un jeune homme, un Gallois, qu'il méprise. On voit un peu ses préjugés anti-Gallois. Il commence son livre en disant que les Gallois sont pires que bêtes en pâture, par leur nature. Donc, quelqu'un, un Nice, un naïf, Nice, c'est un terme, un ancien français qui désigne celui qui est tabula rasa, qui ne sait rien, qui est progressivement éduqué. Et cette histoire d'une initiation d'un jeune aboutira à des incompréhensions, parce que l'un de ses maîtres, un chevalier qui l'a adoubé, qui lui a donné des armes, qui l'a formé à la chevalerie, lui dit « Surtout, ne pose pas de questions indiscrètes, tais-toi, écoute. » Et au moment où il devait poser la question des questions, au moment où il est dans un château hanté merveilleux, où il voit un cortège qui porte des choses très étranges, un vase merveilleux avec des pierreries, des bijoux, une lance qui saigne toute seule, un tailloir sans rien. Un tailloir, c'est un plat pour découper de la viande. Tout cela porté par des jeunes filles avec des chandelles. Il voit passer trois fois ce cortège. Il n'ose pas poser la question à son amphitryon. Or, s'il l'avait posé, cet amphitryon qui est boiteux, le roi pêcheur, aurait retrouvé l'usage de ses jambes. Il aurait redonné la paix à ses terres. Donc, il fait la gaffe de sa vie, cet homme. Et après ça, il essaie de retrouver le château du Graal pour poser la bonne question. Or, cette histoire merveilleuse, comme Chrétien n'a pas pu l'achever ou n'a pas voulu, il y aura des continuateurs à profusion qui christianisent surtout le thème. Robert de Boron, le premier continuateur au sens propre, chronologiquement, à moins que ce soit les continuations envers, eh bien, essaie d'expliquer ce que c'est que ces Graals. Il va vous expliquer que c'est celui de Joseph d'Arimathie, qu'il est extrêmement chrétien. Donc, il y a une christianisation accrue de ce thème pour montrer aux gens qu'il faut qu'ils aient une dévotion pour l'Eucharistie, pour les reliques, pour la passion du Christ. Vous voyez, il y a les cisterciens surtout.
Alors, il y a une évolution, d'abord littéraire, et puis cette transformation chrétienne que vous évoquez. L'évolution littéraire, on abandonne bien le vers pour la prose.
Oui, c'est une révolution extraordinaire. Vous vous rendez compte, on n'écrit plus en octosyllabe, comme à l'époque de Chrétien, mais on utilise une langue qui est une langue sacrée, qui est une langue aussi érudite, qui est une langue de science, qui prétend à l'historicité. Ça aussi, le Graal, à partir du XIIIe siècle, on le situe dans l'histoire des paléochrétiennes, du début du christianisme, de la crucifixion. On essaie de donner des repères chronologiques, des dates. Tout cela s'accompagne de ce besoin d'édifier, de convertir, de transmettre des messages. Ça a été très bien étudié par un membre de l'Institut, Michel Zeng. Maintenant, il y a des jeunes chercheurs comme Catalina Girbea qui poursuivent cette recherche sur la conversion. À partir du roman du Graal.
Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine logique, une scolastique, hein, disons le mot, à travers les textes après Chrétien de Troyes. On abandonne le mystérieux pour convertir les gens avec tout simplement un raisonnement.
Oui, c'est très bien vu. Nous sommes dans une période de grandes sommes théologiques, celle de saint Thomas d'Aquin, de grandes sommes aussi encyclopédiques. Et il y a cette volonté d'instruire à travers le roman. Bien sûr, il ne faut pas que ça passe avant tout le reste. D'abord, ce sont des romans qui servent à divertir. Il y a un sens ludique. Mais prenons le sujet de la croisade. Beaucoup de critiques ont remarqué à juste titre qu'il y a des comparaisons avec les Sarrasins et les ennemis des chevaliers du Graal, des chevaliers de la cour du roi Arthur, qui sont investis d'une mission presque chrétienne, d'une vocation, d'aller chercher le Graal. Ils vont chercher le Graal jusqu'à Jérusalem. Or, ils combattent impitoyablement ces chevaliers qui sont l'image des Sarrasins. Ils les combattent où ? En Terre Sainte aussi, c'est dit explicitement dans La mort le roi Arthur, qui continue la quête du Saint Graal. Donc, il y a cette géographie qui se déplace vers l'Orient aussi pour les origines du Graal, comme on l'a vu, la compagnie de Joseph d'Arimathie qui part à l'Occident, qui part vers la Grande-Bretagne. Il y a l'appel de l'Orient. Robert de Boron lui-même, on le sait, il a fini ses jours à Chypre. Et le patron du roman du Graal, du conte du Graal de Chrétien de Troyes, Philippe de Flandre, le comte de Flandre, est mort aussi sous les murs de Saint-Jean d'Acre en 1191. Donc, la croisade imprègne tout. Et c'est une des façons aussi de dire aux chevaliers, votre plus grand idéal, c'est de récupérer le tombeau du Christ, c'est de vous battre pour Jérusalem.
Eh bien, Martin Aurel, nous arrivons au terme de cette émission. Peut-être une dernière question. En lisant votre ouvrage, on se demande quelle est la thématique. Bon, ici, c'est le roi Arthur, mais est-ce qu'il existe une autre thématique, un autre personnage qui, dans l'histoire, aura suscité tant de commentaires ?
Ouf, c'est une bonne question. Je pense à Roland pour la matière de France, pour une autre catégorie de textes de fiction médiévale qui, lui, a existé. Charlemagne aussi, l'empereur à la barbe fleurie, mais le Cid dans la littérature castillane, les Nibelungen dans la littérature germanique. Il y a de ces grands mythes, de ces grands héros dans la littérature médiévale. Mais peut-être la caractéristique d'Arthur, c'est qu'il continue d'irriguer la création littéraire. C'est un personnage, vous parliez de Camelot sous le jour de la dérision, du ludique, du parodique, mais vous avez aussi des œuvres très sérieuses, filmiques ou littéraires, qui continuent de perpétuer le thème. Et on est loin d'en finir.
Eh bien, merci beaucoup, Martin Aurel, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle les références de votre ouvrage, La légende du roi Arthur, donc de Martin Aurel, paru aux éditions Perrin. Et je renvoie nos auditeurs également à votre ouvrage, paru dans la collection de poche des éditions Perrin, la collection Tempus, qui est de votre livre donc consacré à l'Empire des Plantagenêts. Merci beaucoup, Martin Aurel.
Merci.
Et à très bientôt, chers auditeurs, pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.